Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Aujourd'hui, on va parler des chats qui veulent prendre notre boulot et de Twitter avec sa semaine de Twitter Musk. C'est parti tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, c'est Patrick Béja, nous sommes en décembre, nous sommes également à l'épisode numéro 490, voilà je cherchais, vous entendez, hein, vous êtes habitués maintenant, vous savez que quand j'hésite un instant, c'est que je suis en train de chercher un truc, mais je n'hésite pas à dire que nous sommes avec notre excellent ami, notre excellentissime blogueur chef de l'internet, Corben. Comment vas-tu Corben aujourd'hui ?
Bah écoute, ça va, en pleine forme. Pas beaucoup dormi parce que je bidouille pas mal ces derniers temps, mais écoute, il fait beau, il fait froid ici, mais il fait beau, donc ça va.
Oh, il fait froid, petit joueur, mon petit chaton, moins 4, c'est quand c'est l'été ici chez nous en Finlande.
Ouais, je m'en doutais.
Il neige là, là il s'est arrêté de neiger, mais il a pas arrêté de neiger depuis ce matin, il faisait moins 11 cette nuit, voilà.
Ah ouais.
Donc tu vois, là c'est les vrais.
Ouais,
on a peut-être Cédric Deluca qui va venir nous rejoindre, mais alors d'après les informations que m'a transmis Corben, il serait aux toilettes, Cédric. Donc il arrive, il finit et il se joint à nous normalement, si tout va bien.
Et fake news.
En attendant, oui, c'est un peu fake news. D'ailleurs, on parlait de ChatGPT et de la manière dont tu l'utilises pour écrire tes articles désormais. Donc, on est pile dans le sujet.
Non, abuse pas.
Si, c'est exactement ce que tu m'as dit, Corben. Tu m'as dit, je ne fais plus rien, je mets deux lignes sur ChatGPT et je mets ça en ligne comme ça. Tu me l'as dit ou pas ? Le chat Twitch était...
Je t'en parlerai.
Bonjour aussi au chat Twitch d'ailleurs, bonjour à tous. Je précise, il y a des gens qui m'ont posé la question qui demandaient comment on fait pour rejoindre le chat, enfin pour surtout regarder les épisodes en live. Vous pouvez venir le jeudi sur twitch.tv/notepatrick. C'est très, très simple, je dis jeudi, c'est mardi midi et jeudi midi. twitch.tv/notepatrick, vous n'avez pas besoin de créer un compte hein, pour regarder, pour commenter, oui par contre. Mais vous pouvez vous joindre à nous comme le font ces dizaines de personnes qui sont là aujourd'hui. Et je remercie, en plus de tout ça, les patriotes Anne Dumontier, Gab, Pierre-Guillaume Vildary. Merci à vous trois qui avez rejoint le Patreon cette dernière semaine. Trois patriotes en une semaine, je suis aux anges. Et en plus de ça, on a les producteurs de cet épisode, Rémi X et Derek Herbe, dont on se demande si ils ne vont pas eux aussi commencer à faire leur travail avec ChatGPT. Et c'est ça dont on va parler tout de suite parce que ça a complètement enflammé le web ces derniers jours et cette dernière semaine. Donc on se lance dans les infos de la semaine, les infos à retenir tout de suite avec ChatGPT. Qu'est-ce que c'est que ChatGPT ? Alors, je suis sûr que vous en avez entendu parler. Comme je disais, on l'a absolument partout. Il y a Cédric qui nous dit qu'il y a eu une coupure de courant. Alors, niveau des excuses, parce qu'il était aux toilettes, franchement, je trouve ça un petit peu facile quand même. Ouais, j'ai plus de courant, il fait froid, c'est l'hiver, tout ça, genre. Bon, donc, ChatGPT, je suis sûr que vous en avez entendu parler un petit peu partout. C'est un nouveau mode de OpenAI qui a une intelligence artificielle de conversation qui est extrêmement performante, dont on entend parler un petit peu partout, depuis des années. Quand on vous dit qu'il y a une intelligence artificielle qui fait des textes qui sont extrêmement crédibles, eh ben souvent, c'est de celui de OpenAI dont on parle. Et aujourd'hui, enfin, il y a une semaine, ils ont lancé une version conversationnelle qui est beaucoup, en fait, mise en avant, non pas pour ses capacités conversationnelles, mais simplement parce que l'intelligence artificielle qui répond à vos questions ou qui fait ce que vous lui demandez de faire est très impressionnante. Alors, il y a des gens qui l'utilisent avec la conversation qui est extrêmement consciente de ce qui se passe dans la conversation elle-même. Mais vous allez voir, on va en parler un petit peu et on va vous donner des exemples que c'est surtout la génération de texte qui est hyper impressionnante. Donc, tout le monde peut utiliser cette version. C'est en partie pour ça qu'elle a fait tellement de bruit, parce que n'importe qui peut aller sur openai.com, openai.com, et se créer un compte et commencer à utiliser cet outil, et d'autres d'ailleurs. Et donc, là où ça vaut la peine d'en parler, c'est qu'on constate, je crois qu'on est, comme avec la génération d'images, on a passé une étape où le résultat est tellement impressionnant et tellement cohérent que ça devient vraiment utilisable. On ne parle même plus de la question de est-ce qu'on va savoir que c'est une IA, est-ce qu'on voit les ficelles au bout de quelques requêtes, est-ce qu'on va comprendre, ah oui, là, il fait un petit peu comme ci, un petit peu comme ça, est-ce que c'est vraiment complètement juste les réponses qu'il donne ou pas. Ça, je pense que tout le monde comprend qu'une IA ne va pas forcément avoir des réponses parfaitement justes, mais la cohérence des réponses est assez indéniable. Je vais vous donner un exemple. On va aller sur le texte que j'ai déjà fait. On va poser d'autres questions. J'ai posé, par exemple, une question parfaitement innocente. Il est censé ne fonctionner qu'en anglais, donc il fonctionne peut-être encore mieux en anglais, mais il fonctionne aussi en français. Et je vais vous lire deux questions que j'ai posées et vous allez voir les réponses qu'il a données. Complètement innocente cette question qui n'a rien à voir avec les sujets dont on parle depuis quelques semaines. Première question, est-ce que la tech influence la politique ? Oui, et là c'est la réponse. Oui, la technologie peut avoir une influence sur la politique de différentes manières. Par exemple, les progrès technologiques peuvent changer la façon dont les gens communiquent et s'informent, ce qui peut influencer leur opinion politique. La technologie peut également avoir un impact sur l'économie, ce qui peut influencer les décisions politiques. En outre, la technologie peut être utilisée par les gouvernements pour surveiller les citoyens et influencer leur comportement, ce qui peut également avoir des répercussions sur la politique. Donc, voilà la réponse qui est entièrement écrite par une IA, par un ordinateur. Moi, suite à cette réponse, je dis « Ok, mais du coup, il faut que les gouvernements contrôlent sévèrement l'industrie tech, non ?» Et la réponse, encore, cela dépend de la façon dont on considère la question. D'une part, il est important que les gouvernements surveillent et régulent l'industrie technologique pour assurer la protection des citoyens et de leurs droits. Cela peut inclure la réglementation des entreprises technologiques pour garantir la confidentialité des données des utilisateurs, la protection contre les logiciels malveillants et les autres menaces en ligne, ainsi que la lutte contre la discrimination et l'exploitation dans les algorithmes. D'autre part, il est important de ne pas trop réglementer l'industrie technologique, car cela pourrait entraver l'innovation et le progrès. Les gouvernements doivent trouver un équilibre entre la protection des citoyens et la liberté d'innovation dans l'industrie technologique. Alors, il y aurait plein de choses à dire sur la teneur des propos tenus, l'orientation, le fait que, par exemple, ils ne parlent pas de réguler les GAFA, mais la puissance qu'ils prennent dans la société ou ce genre de choses. Mais on en advient presque à parler de la construction du raisonnement de la teneur du propos plus que de la cohérence de la réponse. Et ça, c'est hyper impressionnant. C'est-à-dire qu'on arrive à un texte qui est complètement cohérent et ce n'est pas genre un truc qu'on a sélectionné parmi des dizaines de réponses au hasard. Là, c'est vraiment, j'ai mis la première question qui m'est passée par l'esprit et la réponse est convaincante. Et à partir de là, il y a des tonnes d'implications. Je précise simplement que, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, la manière dont fonctionne cette IA, c'est pas qu'elle va vraiment réfléchir, il n'y a pas un processus de réflexion, c'est une sorte de, pour simplifier beaucoup, une sorte de méga-giga autocomplete. C'est-à-dire qu'elle va dire, elle va voir le texte que vous allez donner, et elle va essayer de trouver un truc en rapport et compléter son raisonnement par rapport aux idées qu'elle propose et que lui suggère votre question. Je schématise énormément et pour tout vous dire, je ne suis pas un super pro, c'est de la science hyper dure, donc je ne suis pas un super pro, mais c'est en gros une sorte, pour schématiser beaucoup, d'autocomplete. Mais le résultat est vraiment impressionnant. Cédric est arrivé, donc on va lui dire bonjour aussi. Salut Cédric, comment vas-tu ?
Sûr que c'est vraiment moi et que ce n'est pas une intelligence artificielle.
Alors c'est la grande question. Ça. Merci de te joindre à nous après ces péripéties,
ça va
très bien. On ne te dira pas ce qu'on pensait que tu étais en train de faire avec Corben.
Ah non, j'étais en train d'expliquer aux étudiants que sans courant le wifi ne fonctionnait pas. Voilà,
ça c'est problématique. Starlink, Cédric. Du coup, avec Corben on était en train de parler de son utilisation de cette intelligence artificielle pour ses TikTok. Plongeons directement dans le vif du sujet.
Corben, même ses articles, en fait, il écrit bah, tout grâce à cette intelligence artificielle.
Allez, les gars, calmez-vous, elle est sortie depuis quelques jours, j'ai pas encore eu le temps.
Ouais, mais tu utilises l'alpha depuis longtemps, on le sait.
Je suis pas encore en retraite.
Mais en fait, c'est ça, c'est déjà le truc, le thème, en fait, que j'ai plus ou moins choisi pour cette approche, il y en a plein. Mais c'est tellement impressionnant que là, on n'est plus à un jour, les IA pourront réussir à faire des choses, comment dire, suffisamment bien pour être utilisables en prod, on va dire, en production. Là, on y est vraiment. Corben, toi, tu nous disais donc que tu l'utilisais un petit peu pour, pour certains trucs.
Je peux vous parler de là, moi, je suis très concret sur les utilisations que j'en ai de ces trucs. Là, ça fait une semaine que je dors plus parce que je teste tout. J'essaye de voir jusqu'où sont les limites et j'ai du mal à les trouver parce que c'est quand même assez balèze. Alors oui, on peut l'utiliser comme un moteur de recherche quelque part. On peut se demander à quoi sert encore Google sur ce genre de truc. Donc ça, c'est les utilisations basiques. Tu lui poses des questions, il répond, tu peux discuter, hein, avoir des arguments.
Alors là, tu lances le truc comme ça et tu vas l'oublier, mais c'est hyper important. C'est complètement...
Oui.
Google, les intelligences artificielles, genre les assistants personnels, mais c'est 10 fois mieux que Siri, que Google Assistant. C'est incroyable. Tu poses une question, il te répond. C'est le Google du futur. Déjà, ça, c'est un point qui est énorme, mais qui des conséquences.
Ça, c'est vrai que c'est énorme parce que voilà, tu lui poses une question, après elle te convient ou pas, enfin la réponse te convient ou pas, c'est un truc. Mais bon, moi après, j'essaye de voir comment moi je peux l'utiliser pour que ça me fasse gagner du temps dans mon boulot. Donc effectivement, ce qui est impressionnant, c'est que par exemple, je peux prendre un contenu que je trouve sur Internet, hein, sur une page web qui peut être hyper technique, hyper compliqué, en anglais. Tu vois, je prends un dépôt GitHub et dessus, il y a tout un des lignes de code, des machins, je comprends rien. Ça peut même être écrit en chinois si j'ai envie. Je le prends, je dis à l'intelligence artificielle, je comprends rien, fais-moi un résumé de ce truc ou écris-moi un tuto dans un style détendu pour mon blog, etc. Elle va prendre ce contenu, elle va l'analyser et elle va me faire un tuto carré avec des exemples de lignes de commande, avec comment je peux utiliser, etc. Donc ça, c'est déjà très impressionnant en termes de génération de contenu. Donc ça peut être, on peut l'utiliser tel quel, hein, vraiment pour alimenter un site. Alors après, le contenu, il n'y a pas d'humour, il n'y a pas de blague, il n'y a pas de, voilà, c'est pas très agréable à lire.
Mais, et puis évidemment, mais il peut y avoir des fautes ici ou là. Il y a Stack Overflow, par exemple, qui dit, on arrête avant de savoir exactement comment on va gérer ça, parce qu'il y a des gens qui utilisaient ça pour des réponses techniques qui souvent étaient bonnes, mais t'es pas sûr parce que t'as pas quelqu'un qui sait vraiment. Ça reste un truc un petit peu automatique.
Ça, c'est sur des parties comme ça. Moi, je parlais de TikTok tout à l'heure ou même de YouTube ou peu importe. Dès que j'ai un contenu à faire, je peux lui passer un de mes articles que j'ai déjà écrit en disant « Fais-moi un plan structuré de tout ça ». J'ai testé aussi, je lui ai baratiné, hein, j'ai dit je suis en train d'écrire un roman, voici le nom des héros, voici un peu la situation dans laquelle ils sont et machin, et écris-moi un roman, ou en tout cas le premier chapitre, etc. Et je te jure, j'ai fait 4000 mots comme ça de roman, j'ai un chapitre complet d'un truc post-apocalyptique et machin, qui se lit bien, quoi. Enfin, c'est un truc de dingue, c'est que ça se lit bien, c'est même pas genre répétitif. C'est pas de la grande littérature, hein, mais bon, ça se lit, quoi.
Quand on parle de quelque chose de plus artistique, tout à coup, c'est encore plus valable parce qu'il n'y a pas de question d'exactitude, que ce soit scientifique ou de justesse, tu vois. C'est juste, bon, bah là, c'est le délire du truc et s'il y a un problème, c'est pas grave. Donc ça marche encore mieux. Ouais.
Ça, alors après, sur les trucs qu'elle peut faire aussi, elle peut écrire des chansons. Alors tu vois, tu peux lui dire, je veux une chanson dans le style 2. Donc tu peux dire, je veux une chanson qui parle de la banlieue et des crapauds et des arbres et des fleurs. Est-ce que tu veux de la neige et tout ? On s'en fout. Et tu lui dis, je veux que tu m'écrives ça dans le style de Molière. Et puis elle va te faire une chanson, des paroles avec le style un peu, tu sais, à l'ancienne de Molière, quoi.
Bah là, ça, par exemple, je lui ai demandé, fais-moi un poème sur Corben, le gentil blogueur, qui a une discussion animée avec le vicieux YouTuber Cédric. Voilà le poème. Je suis en train d'être écrit là, hein. C'est un petit peu long, mais Corben, le gentil blogueur, avec Cédric, le vicieux YouTuber, ont eu une discussion animée sur les sujets du jour. Jusque-là, il reprend juste les termes du truc. Ouais. Corben, toujours poli et bienveillant, essayait de raisonner Cédric, qui était plein de haine et de mépris et ne voulait rien entendre. Mais Corben, malgré les insultes et les moqueries, continuait à discuter calmement, espérant que Cédric finirait par voir qu'il avait tort et que la vérité prévalait. Et finalement, grâce à la persévérance de Corben, Cédric a compris son erreur et a abandonné ses idées fausses pour adhérer à la raison, à la vérité et à la raison. Ainsi, Corben, le blogueur bon et juste, a vaincu le YouTuber malfaisant et a prouvé que la vérité et l'amour triomphent toujours du mensonge et de la haine. Alors, il n'y a pas beaucoup de rimes, mais quand même, mais, j'arrive pas à croire qu'on est arrivé à un moment où ça, c'est possible. Je me dis, mais il y a des gens qui sont derrière en train de taper aussi vite que possible pour faire le truc. C'est invraisemblable, tu vois, qu'il y ait une IA qui réussisse à répondre aussi justement à nos questions, quoi. C'est fou.
Tu lui parles en français.
Ouais, mais c'est dommage que le postulat de base soit faux, parce que le youtubeur vicieux, c'est pas moi, c'est Norman. Pardon. Ouais. Alors, du coup... non, mais moi, ça me fait très peur. Hein. Vous savez pourquoi ?
Non, moi, j'ai très peur parce que... Est-ce que t'as peur pour ton boulot ?
Ah, pas du tout. J'ai peur que ce que vont me rendre les étudiants, par exemple, en rapport de stage en entreprise, ce soit que généré par une IA, en fait. Quand je leur demande, vous devez me faire 7000 mots dans votre rapport de stage, en fait, s'ils sont capables de dire à ce système-là, rédige-moi un rapport de stage expliquant l'organigramme de telle entreprise, enfin, tu vois, en donnant le plus de détails possible, et qui me génère un truc qui me rende à la fin, en fait. Tu vois, ça va être hyper compliqué pour moi d'évaluer ce qui est de l'étudiant ou ce qui est de d'autres choses, en fait.
Ouais. Mais là, du coup, c'est la question qu'on peut se poser, c'est à quoi ça sert finalement maintenant de pisser de la ligne dans des rapports de stage.
Non, mais bien sûr, mais en fait, bien sûr, mais si tu veux, nous, l'idée du rapport de stage, c'est de vérifier que l'étudiant a réellement exercé son stage correctement, a compris les différents enjeux, etc., de l'entreprise. Et là, je ne peux pas vérifier ce truc-là. Donc, il faut réfléchir peut-être à une autre façon d'évaluer le stage des étudiants, sans doute. Mais tu vois, cette problématique-là, dans l'éducation de manière générale, risque de se poser. Genre, résume-moi tel livre en 100 lignes, tu vois, à l'école. Ah. Quand tu fais ça, c'est pour t'assurer que la personne a bien lu le livre.
Rédige-moi un rapport de stage résumant l'organigramme de Google en 100 mots. L'organisme de Google est composé de plusieurs niveaux hiérarchiques avec le PDG Sundar Pichai en tant que dirigeant suprême. Voilà. En dessous de lui se trouvent les principaux responsables des différents secteurs d'activité de l'entreprise tels que les services de recherche, les produits publicitaires, les services cloud et les appareils. Les responsables sont à leur tour responsables de différentes équipes et unités de travail qui sont chargées de gérer les aspects spécifiques de ces secteurs d'activité. En général, l'organigramme de Google reflète une structure en arbre avec les branches qui s'élargissent à mesure que l'on descend dans la hiérarchie.
Ça va remettre en question exactement ce que tu dis. Par exemple, moi, mon fils, il avait un problème de maths qu'on avait résolu la semaine dernière, donc c'était pas un truc où il a triché, mais on l'a remis dans l'outil. Non seulement il résout le problème de maths, il pourrait juste donner le résultat, tu vois, mais non, il l'explique, il met
le raisonnement et tout.
Il y a le raisonnement, il y a tout, quoi. Il y a tout, tout, tout.
Ouais. Donc, on n'est pas à une. Par exemple, moi, ce à quoi ça me fait penser, il y a deux choses. C'est. Quand les livres ont commencé à apparaître, les gens, ont dit « Ah ben voilà, on va plus avoir aucune mémoire parce que tous nos savoirs seront dans les livres et du coup, on n'aura plus besoin de rien retenir et de rien apprendre. » Première chose. Deuxième chose, c'est les calculatrices. Les gens se disaient « Ah ben, personne va plus savoir compter parce qu'on a les calculatrices tout le temps, donc on n'a plus besoin de compter. » Voilà. Alors effectivement, il faut apprendre les bases parce que c'est toujours bon d'avoir les bases à la base. Je me fais un tout petit peu pas l'avocat du diable, mais enfin, je prends l'opinion inverse. Mais est-ce que ce n'est pas un outil, justement, à utiliser de la même manière qu'avec Internet, finalement, l'important, ce n'est pas de tout savoir, c'est de savoir chercher. Et il faut bien savoir chercher.
Soyons
honnêtes, on n'a plus besoin de savoir beaucoup de choses. Là, est-ce que ce n'est pas savoir utiliser ces outils pour ne pas avoir à faire le travail le grunt work, quoi, ou le travail un petit peu pénible, mais on va prendre le texte et puis le remodeler à notre sauce, ou tu vois, ce genre de choses.
Mais t'imagines une thèse de doctorat ?
Bah oui.
Généré par... et ça va fonctionner, hein. Mais en fait, tu diplômes qui ? Tu vois, le problème, c'est que tu diplômes un mec qui est malin et qui sait utiliser l'outil. Mais en fait, c'est pas. On ne peut pas évaluer sa
compétence. Il n'a pas acquis les connaissances et l'expérience et le savoir, tu veux dire.
Eh bien oui, mais du coup, après, quand tu vas aller chez ce docteur-là, ce spécialiste, peu importe dans quoi, et tu vas lui poser une question, en fait, il ne saura pas te répondre. Il utilisera cet outil qui apportera une réponse. En gros, il va juste devenir une interface entre. Tu vois la problématique ?
Oui, donc, complètement.
Donc, tu vois, quand ça reste. Et le pire, c'est que c'est indécelable. Ça ne peut pas être considéré comme du plagiat dans le sens où tu peux lui poser deux fois la même question et tu n'as pas forcément la même réponse. Ouais. Donc, c'est extrêmement complexe. Enfin, Tu vois, moi, à mon niveau, j'arrive quand même à évaluer ensuite en te posant des questions si l'étudiant a fait ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas. Mais imagine tous les devoirs sur table, les machins, les devoirs à la maison et tout ça, au collège et au lycée. Quand tu dois rendre un résumé d'un truc et tout. Enfin, je veux dire, ça va être hyper tendu, quoi.
J'ai demandé
de l'évaluation.
Tu dis, c'est pas facile de trouver la comment dire, parce que c'est à chaque fois différent. Là, j'ai demandé comment on fait une sauce vinaigrette deux fois de suite. La réponse a l'air d'être quand même pile la même. Donc, au moins sur ça.
Oui, mais après, c'est la vinaigrette. Mais si recette, tu redemandes l'organigramme de Google. Je veux dire, en plus, il faut retrouver la question qui a été posée à l'origine. T'imagines?
Ouais, bien sûr, bien sûr.
C'est juste pas possible parce que tu introduis une toute petite variante et la réponse peut être complètement différente.
Mais ce qui est certain, c'est que la conversation, la discussion est poussée. Encore une fois, avec l'intelligence artificielle et les robots, etc., c'est poussé non pas à est-ce que c'est possible, mais pourquoi, pour quel type de résultat est-ce que c'est possible ? Genre, un article qui va résumer un sujet très simple, ça va être. La question ne se pose même plus. Une IA comme ça, elle peut parfaitement résumer un sujet simple en un article, mais sans aucun problème. Est-ce que pour un podcasteur, par exemple, si on ajoute un outil très simple de lecture text to voice, de texte à la voix, par exemple, si je dis résume, je ne sais pas s'il peut faire les trucs, l'actualité. Résume-moi l'actu tech de la semaine en. Attends, je vais dire résume-moi les trois sujets d'actu tech de la semaine en. 100 mots pour pas qu'ils nous partent sur des... Ça, je suis désolé, mais je suis pas en mesure de fournir des informations d'actualité de la technologie. D'accord, donc au moins, l'actu, il peut pas
encore un peu de...
Mais elle est pas... En fait, c'est pas connecté, donc en fait, ça va pas faire des recherches en live, hein. Tout c'est généré comme ça. Mais donc ça, c'est un problème.
Pour l'instant, non, c'est un problème, non, c'est très bien, résolu. Très bien, moi je suis content.
Non, mais ça va être résolu, ça, après, elle ira faire des recherches. Mais moi je vais vous dire comment je l'utilise là, ça me fait grave de temps. Je reçois beaucoup de mails en anglais, en français, de gens qui me demandent des trucs et machin, ça me fait chier, j'ai pas envie de lire. J'aime pas écrire des mails et faire des tournures de phrases et tout. Je claque mon mail, le mail que j'ai reçu dedans. Je lui dis voilà, réponds-lui que ça m'intéresse pas, ou réponds-lui qu'on fait un call la semaine prochaine, mardi à 12h30. Je mets ça, ça me génère une réponse toute faite avec des bonjours, des cordialement, des merci, je ne suis pas intéressé, et j'ai plus qu'à envoyer, quoi. Et c'est un temps de dingue économisé. Alors là-dessus, je suis très client de ce genre de truc, hein, pour gagner du temps, quoi. Donc,
Fanny, qui ça, est ça donc ma productrice, s'occupe également du scheduling, de certaines communications avec des invités potentiels. Cette partie de son boulot, par exemple, pourrait facilement être pluguée dans Gmail ou ce genre de choses. Mais du coup, ça veut dire que ça lui laissera plus de temps pour faire du montage, pour chercher des idées. Tu vois, c'est
à chaque fois
qu'on a eu des automatisations de certaines tâches dans l'histoire de l'humanité, ça nous a libéré du temps pour faire des choses un petit peu plus créative. Fanny, elle dit, j'adore envoyer des mails. Ok, mais bah oui, alors tu peux continuer, ça va.
Mais moi, je le vois comme ça. Je le vois vraiment comme un assistant, en fait, personnel, qui peut m'aider quand je sèche sur un truc ou quand je sais pas trop dans quel sens aller. Par exemple, ce matin, j'ai refait des tests, même hier. J'avais beaucoup de choses à faire dans la journée, tu vois. Donc, je lui ai mis un peu toutes mes tâches. Je lui ai dit, voilà, aujourd'hui, je suis stressé, je dois faire ça, 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 ça. Alors, c'était toujours pour faire des tests. Hein. Est-ce que tu peux m'aider à organiser mon planning du jour, quoi ? Eh ben, après, c'est subjectif, mais elle m'a...
Ça a coupé un peu.
Ensuite, tu fais ça, etc., etc.
Elle t'a donné un planning de ta journée, quoi.
Un planning, du coup, bah voilà, j'avais plus qu'à suivre le planning, tu vois. Quand t'es débordé, t'es stressé, t'as pas les idées claires, tu sais pas comment faire. Tu peux lui expliquer ton problème et elle va t'aider à le résoudre. En tout cas, elle va te proposer une solution. Mmh.
Je suis... Tu sais, le fait qu'on soit à cette étape... Et c'est encore une fois, les assistants personnels qui n'ont pas évolué, les Siri, les Google... Enfin, Google a plus évolué que Siri, mais ces assistants personnels-là, là, avec ce chat GPT, on tient... Parce que c'est pas juste, encore une fois, une question de conversation. Il va te répondre de manière crédible et cohérente à quasiment n'importe quelle demande. Encore une fois, pas d'actualité. Mais par exemple, le fait de dire « fais-moi mon planning avec telle et telle contrainte », mais c'est incroyable. Enfin, Bref. Ouais. Je ne sais pas si ça va, si ça va prendre.
Promesse, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était la promesse de Cortana dans les vidéos de Microsoft. Hein.
Ouais.
La promesse de Cortana, l'assistant connecté à ton Outlook, machin et tout ça, à qui tu lui dis ah mais planifie-moi un rendez-vous à midi. Ouais. Tu dis ah mais non, vous avez déjà un truc. Du coup, je regarde dans l'agenda de l'autre et machin. Enfin bref, un truc qui est jamais arrivé. C'était de la science-fiction. Ouais. Mais il y a pas si longtemps que ça. Hein, c'était il y a 2-3 ans quoi. Ouais. Aujourd'hui, bah on pourrait vraiment y arriver quoi.
Et clairement, GPT-3 était en avance sur les autres. Cet outil, il y a GPT-4 qui arrive bientôt. Évidemment, là, on a parlé des aspects impressionnants. Il y a énormément de questionnements, de problèmes, de questions d'exactitude, de base, de base de travail qu'elle utilise pour générer son modèle, parce que les biais sont reproduits et dans tous les sens. Enfin, il y a plein de questions qui se posent. Mais GPT-3 a toujours été un petit peu en avance sur les autres, qui le rattrapent, qui vont réussir à faire aussi bien. Et du coup, c'est une question de mois, comme on l'a vu avec la génération d'images, ou au plus d'années, pour que toutes les sociétés qui travaillent dans l'IA, et donc ça inclut les GAFAM, aient ce type de résultats et les intègrent à leurs outils. Là, on est à la preview de ce genre de choses, mais ça va être implémenté dans plein d'outils dans les semaines et les mois à venir. Et c'est même pas juste dans les outils genre de Google ou de Apple. C'est encore une fois, quand on dit les IA vont venir prendre nos boulots, bah, ça va être utilisé aussi pour, encore à ce stade, des aides, mais peut-être même encore plus loin. Je peux imaginer des publications qu'ils font déjà pour certaines choses, mais qu'ils feront peut-être encore plus pour écrire des articles. Alors encore une fois, l'actualité n'est pas encore traitée parce que le temps de construire le modèle, il est construit et il est figé, mais on peut imaginer des évolutions qu'ils intégreront aussi. Et il y a toute une catégorie de boulot qui sera plus... Enfin, clairement, le travail un petit peu, comment dire, le travail intellectuel dont on se disait l'automatisation ne nous touchera pas. Si j'étais journaliste, et je suis en partie journaliste, je m'inquiéterais, quoi. C'est clairement...
Là, par exemple, je l'ai testé aussi pour, par exemple, me donner des arguments. Quelqu'un, par exemple, me dit sur Twitter, me dit un truc, voilà, enfin, n'est pas d'accord avec moi, il me dit non, ça, c'est pas bien ton truc, machin. J'ai pas d'argument à lui opposer parce que j'ai pas réfléchi au sujet, je le connais pas bien et machin. J'explique à l'IA le problème, je lui dis est-ce que tu peux me fournir une liste d'arguments, en gros, en ma faveur, quoi. Bah, ça va te sortir 5 ou 10 arguments en fonction de ce que tu lui demandes et qui sont des vrais arguments. Après, tu peux les retrouver sur Internet de gens qui vont défendre le truc et compagnie. Donc ça, là-dessus aussi, tu vois, en gros, si t'es un peu con, ça peut t'aider à briller en société assez facilement, quoi, ce genre de truc.
Et bientôt, avec intégré dans nos AirPods ou dans nos lunettes ça, de réalité augmentée. Donc, il entend, tu actives le mode... réponse witty, tu sais, réponse intelligente et avec humour, et il écoute la conversation et il va dire, ah bah, il va te suggérer, tu sais, la réponse marrante qui flingue bien la personne d'en face. C'est pire que l'histoire des devoirs des étudiants, tu sais. Si t'as l'air cool et intelligent et plein d'humour, bon, raconte.
Au niveau blague, elle est nulle, hein. Tu peux lui demander une blague, dire, tu vas voir.
Raconte-moi une blague sur Twitter.
Parmi les exemples, il y a Alexandre Malch, que vous connaissez sans doute.
Il ne veut pas raconter des blagues. Pardon, qui ça ?
Il y a Alexandre Malch, que vous connaissez sans doute, qui lui a posté sur Twitter. Vous ne connaissez pas Melty, tout ça ? Maintenant, il est full live.
D'accord.
Bon, bref. Vous ne le connaissez pas ? Bon, ok, c'est pas grave. Ok, mais je pensais que tout le monde le connaissait, mais ce n'est pas grave. Donc l'idée, c'est que lui, en fait, il s'en sert pour générer des histoires du soir à volonté pour son fils. Et donc l'exemple qu'il a posté, c'est « Bonjour, j'aimerais une histoire avec un lion qui s'appelle Kion, un éléphant et un lapin dans une jungle. » Et là, c'est parti pour l'histoire. Donc il était une fois un lion du nom de Kion qui vivait dans la jungle tropicale avec son éléphant de meilleur ami, etc. Bon, il donne des noms et tout, tu vois. Et c'est pas mal hein, pour générer des histoires. Franchement, il faudrait faire un livre d'histoire pour enfants généré 100% par intelligence artificielle.
Non, mais t'as même pas besoin d'un livre. Tu as ton truc et puis tu dis, alors aujourd'hui, tu veux une histoire avec quoi et tu...
Non, mais bah après, tu te fais un truc joli que t'imprimes et que tu donnes à ton fils. Il est hyper content
d'avoir ses propres histoires personnalisées.
Alors, il y a un truc
mais tu sais, c'est marrant parce que Du coup, si l'histoire en elle-même n'est plus difficile à écrire pour une histoire pour enfants, après, il y a plein de types d'histoires pour enfants différentes, hein, on est d'accord, et plus ou moins bien écrites, mais du coup, c'est ce qu'il y a autour qui devient important. Tu l'imprimes, tu la fais jolie avec des illustrations faites par une IA, mais tu vois, c'est ton travail autour, la manière dont tu ouais. assembles les morceaux qui a de la valeur, quoi. Pardon, comme tu disais. Et on va conclure,
on
a
pas parlé,
parce qu'on a fait le tour.
C'était sur la génération de code. Moi, je l'ai testé pour coder des trucs. Alors, j'utilisais Copilot là, de GitHub là, de Microsoft pour générer du code. Sauf que Copilot, ça marche en séquentiel. C'est-à-dire que tu écris un truc et il complète, et il complète, et il complète. Là, tu lui dis, voilà, je veux un code qui fait ci, qui fait ça. Donc déjà, tu lui parles en français, quoi, en gros, et tu lui dis ce que tu veux. Tu dis, tu veux ça en Python et machin, et il va te. Déjà, il t'explique comment fonctionne le code, et puis il te propose un code. Et si ce code ne te convient pas, si par exemple tu veux rajouter une fonctionnalité dedans, tu dis, bah rajoute aussi ça, je veux que ça fasse ça et tout. Et va reprendre le code, le modifier et rajouter ça dedans. Et j'ai fait différents tests aussi de conversion, donc le code marche et tout, il n'y a pas de souci. Hein. Alors des fois, ça ne marche pas, ça arrive aussi hein, que ça ne marche pas.
Ah! Ça a recoupé, c'est l'internet
Starlink.
De Corbeil qui fonctionne.
Ah ouais, ouais, c'est l'Auvergne. Et
L'Auvergne frappe. En attendant, j'ai demandé à ChatGPT de m'écrire un code HTML qui affiche le message Hello World sur une page web. Et il m'a sorti effectivement un code, alors très simple évidemment, parce que ça c'est très simple, mais c'est parfaitement bien avec les explications. Ouais, vas-y.
Et tu peux même faire du code compilé, c'est-à-dire tu peux lui demander de te générer un code en C++ et il va te le générer. Et après, toi, tu le compiles. Même si tu ne sais pas comment on fait pour le compiler, bah, tu lui demandes de générer la ligne de code pour le compiler, etc. De te dire... Mmh.
Ouais. L'Auvergne,
et
elle est
là.
Je...
Oui. Ah, je suis désolé pour le...
C'est grave, plus que là. C'était l'Auvergne.
Ouais. Et en fait, l'intérêt de tout ça, c'est que quelqu'un qui ne s'est pas bien développé, qui a un besoin technique dans sa vie de tous les jours parce qu'il doit traiter un fichier, il doit faire ci, il doit faire ça, comme tu faisais des macros avant, tu vois, ou des fonctions Excel ou je sais pas quoi, bah, tu peux lui dire, voilà, j'ai ça en entrée, je veux ça en sortie, fais-moi un code en C++, explique-moi comment on le compile, et tu as ton truc, tu n'as plus besoin d'un dev.
Mais c'est dingue, tu sais, plus on y pense, j'ai demandé la recette d'une vinaigrette, par exemple, tout à l'heure, je ne sais plus si je vous ai dit. Mais je me dis, pour avoir, alors peut-être pas une vinaigrette, mais pour avoir ce genre de choses, généralement, j'allais sur Google, évidemment, YouTube souvent, mais c'est beaucoup plus simple avec ça, parce qu'en plus, il y a un élément qui est important, et on nous dit sur la chatroom, attention aux failles de sécurité dans ce genre de code, c'est l'un des problèmes, effectivement, il y en a plein des problèmes, il y a plein de choses pour lesquelles il faut faire attention quand on fait des choses un petit peu sérieuses. Mais par exemple, si je cherche une recette de cuisine ou un truc, si je vais sur Google ou sur YouTube, il va m'afficher 2000 résultats, il va falloir que je trouve le bon, que je regarde la vidéo, je ne sais pas quoi. Là, je lui dis, donne-moi la recette des papillotes de saumon, il va me faire une recette et je n'ai pas besoin de m'emmerder, je suis ce qu'il a dit. Et ce n'est peut-être pas la meilleure ou la bonne ou machin, mais pour un usage complètement casual. Tiens, d'ailleurs casual, comment jouer Zenyatta sur Overwatch 2. Est-ce qu'il va pouvoir me répondre ?
Non, demande-lui Ramattra comme ça.
Ramattra, il est pas encore sorti.
Ce soir.
Mais pour les recettes, par exemple.
Ah non, mais ça va pas. En fait, il dit qu'il faut acheter le jeu. Il me dit pour jouer, il faut acheter le jeu.
C'est la première étape.
C'est la première étape. Mais il y a la deuxième étape où il dit voilà, il faut comprendre ses points forts et ses capacités. Il a tel type de capacité, tel type de capacité. Alors, c'est très basique, c'est la base du truc. Mais oui, il a trouvé. Et il faut travailler en équipe avec les autres joueurs, communiquer pour coordonner vos actions. Il faut avouer que ça reste très surface, quoi, sur ce genre de choses. Et là, on arrive à ce que je disais. On commence à arguer du fait que oui, mais c'est surface, mais c'est pas exactement la bonne réponse que je cherchais. Et donc, on n'est plus à l'étape où on se dit, mais c'est du texte incompréhensible, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de rapport avec la question que je posais. Non, c'est une réponse, peut-être un peu simple, peut-être parfois avec quelques erreurs, mais une réponse parfaitement cohérente à la question qu'on pose, bien écrite. Et c'est ça qui est fou, quoi. On va avancer, parce qu'on pourrait en parler pendant une heure et demie. On a déjà fait une demi-heure dessus, mais ça vaut le coup, c'est dingue. Mais du coup, je vous laisse le mot de la fin à tous les deux, si vous le souhaitez. Corben, un mot de la fin
Vas-y. Si vous pain et vous n'avez plus rien dans votre frigo, vous tapez les trois ingrédients qui vous restent et vous, dites, vous lui dites faites-moi une recette et vous aurez une recette avec ces trois ingrédients.
Pas mal. Mais c'est infini le nombre d'astuces. Cédric, tu nous fais la conclusion ?
Non, mais moi je pense que pour les histoires pour les enfants, c'est top, quoi. Vraiment, je vais tester ça.
Rien
direct,
que là,
pour tes étudiants aussi.
Ouais. Rien que pour les.
Ouais, non, ça, eux, par contre, je vais pas leur dire.
Je pense qu'ils sont déjà au courant, Cédric. Je veux pas te,
donc, voilà,
je veux pas te faire peur, ouais, mais.
D'ailleurs, s'ils sont pas au courant, je leur mets zéro.
C'est ça, exactement. C'est leur
bah, comment
ça
ouais.
C'est là,
ça, c'est là le truc, ça fait partie de leur job, donc ils doivent être au courant de ce
pour la petite histoire, c'est juste pour ton truc, j'ai vu des outils d'IA qui en fait détectent si le texte a été généré par intelligence artificielle, mais ça marche qu'avec GPT-2, donc l'ancienne version de GPT. J'ai testé avec GPT-3 et dans ces outils, il dit non, c'est du texte fait par des humains, quoi. Donc on verra s'ils sortent une nouvelle version, tu vois, qui détecte GPT-3, mais tu pourras peut-être, il y aura peut-être des, tu sais, comme il y a des détecteurs de plagiat un peu sur internet, tu pourras peut-être détecter les trucs comme ça.
T'inquiète, tu les connais, les détecteurs de plagiat, mais moi, il me faudrait ça, quoi.
Alors, j'ai du saumon, des carottes et du lait. Vous pouvez, dans mon frigo, je peux préparer quoi à manger ? Il me propose, genre, là, quatre
réponses. Du saumon, des carottes et du lait, mais qu'est-ce que tu fais ?
Mais écoute, tu fais cuire le saumon à la poêle ou au four, tu le cuis avec des carottes râpées ou cuites à la vapeur, et tu peux ensuite assaisonner le saumon et les carottes avec du sel, du poivre et des herbes. Alors là, il a laissé
Et tu peux boire du lait.
En gros, ce qu'il me dit, c'est bah, cuit le saumon, quoi.
Franchement, avec ces ingrédients-là, c'est hyper facile.
Bah, cuit le
saumon, tu
vois. Non, mais
c'est parce que tu as mal tourné ta phrase. En fait, important que ces outils, c'est la précision et le contexte. Donc, il faut que tu lui dises qu'il utilise obligatoirement les trois ingrédients. Tu peux lui dire qu'il peut en rajouter un quatrième que tu connais pas. Enfin, tu vois, tu peux lui dire.
En l'occurrence.
Précise, quoi.
En l'occurrence, bon, il s'est arrêté en cours de route, je ne sais pas pourquoi, il a dit, la dernière, c'est préparer une quiche aux carottes et au saumon en faisant cul, et puis il s'est arrêté. Mais il y a, par exemple, préparer une soupe de carottes et de saumon en faisant cuire les carottes dans du lait, avec des épices et des herbes de votre choix, ajoutez du saumon cuit et émietté dans la soupe et servez chaud. Réalisez des rostis de carottes et de saumon en mélangeant les carottes râpées avec des œufs battus, alors là il m'a rajouté un œuf, et du saumon cuit et émietté. Faites cuire les rostis dans une poêle chaude avec un peu d'huile jusqu'à ce qu'ils soient dorés et croustillants. Servez-les chauds avec une salade et du yogourt à la place de la crème fraîche. Bon, il a rajouté quelques ingrédients, mais. Bon, bah voilà, ça c'est ChatGPT. Encore une fois, n'importe qui peut aller sur openai.com, créer un compte et s'en servir. C'est gratuit. Peut-être qu'à un moment ça deviendra payant, ou pour les utilisations commerciales, ça sera payant. Mais c'est bon, c'est mind-blowing. Bon, bah du coup, on va passer peut-être un petit peu moins de temps sur l'histoire de la semaine de Twitter, notre Tweet Musk Week. Comme chaque semaine, allez, je vais vous faire les quelques chapitres rapidement, parce qu'il y a quand même des choses qui se passent, mais vous commencez à connaître la chanson avec Twitter. D'abord, le chapitre 1, c'est Ye. Kanye West, Ye, s'est fait bannir de Twitter après avoir posté des images à connotation nazie, on va dire, même plus que nazie. Et Elon Musk a dit « Oh bon, je lui ai donné sa chance, il a continué, donc tant pis, au revoir Kanye West. » Ça, c'est, bon, on va dire, plutôt positif. Chapitre 2, c'est la modération. Twitter a arrêté a supprimé sa politique de gestion de la désinformation sur le Covid-19. Il y a également des problèmes d'insultes homophobes et racistes qui ont augmenté de manière significative. La désinformation sur le climat a augmenté également. Donc, pour tout ce qui est modération, ce qu'on craignait, c'est produit. L'Europe s'en émeut et s'en inquiète. On a vu que Thierry Breton et Emmanuel Macron Emmanuel Macron s'est entretenu avec Elon Musk et Thierry Breton, je crois, doit visiter Twitter bientôt, parce que en Europe, on a des lois sur ces questions. Et visiblement, Twitter ne répond plus aux demandes de l'Union européenne. Et comme on le disait il y a quelques semaines, eh ben ça ne va pas passer. Donc on va voir comment ça va être géré. Mais vu la direction que prend la modération, c'est véritablement problématique, d'autant plus que il y a même pas une recrudescence. Vous vous souvenez que Musk a fait une amnistie de tous les comptes bannis. Il estime qu'il y en aura à terme 60 000 qui vont être de retour sur Twitter. Et il y en a déjà plus de 10 000 qui sont revenus, dont des nazis, enfin des néo-nazis. Vous savez que les néo-nazis, ça existe. Hein. C'est pas genre le point Godwin où on va partir sur des questions de Deuxième Guerre mondiale pour une conversation qui n'a pas forcément quelque chose à voir. En l'occurrence, les néo-nazis qui avaient été bannis de Twitter sont de retour, notamment, alors je vais vous donner un exemple, hein, mais c'est un parmi d'autres, Andrew Anglin, qui est un néo-nazi, antisémite, conspirationniste, tout ce que vous voulez, qui est l'un des fondateurs du site de Daily Stormer. Et quand on dit, je vais être très clair, quand on dit néo-nazi, c'est pas juste une figure de style, une façon de parler. Ce sont des gens qui défendent l'idéologie nazie. Un petit peu comme Kanye West qui est allé sur la chaîne de Alex Jones et qui a dit « Non, mais Hitler, c'est un incompris, il a fait plein de trucs bien. Par exemple, il aimait l'architecture. Hein, et puis, de toute façon, la mort de 6 millions de Juifs, c'est une affabulation. » Voilà, c'est ce que disait Kanye West.
En fait, les Américains sont déjà pas balèzes en géographie et du coup, en histoire, bon bah...
Non, mais c'est pas ça, des néo-nazis, il y en a partout, hein. Il n'y en a pas qu'aux États-Unis.
Et
c'est juste pour expliquer qu'on n'est pas dans une figure de style. C'est véritablement des néo-nazis.
Tu demandes à chat
à GPT
ce qu'il pense de Hitler, du coup, pour voir un peu ce que...
Bah écoute, je lui ai demandé tout à l'heure, est-ce qu'il faut donner des coups de poing aux nazis ? Et il m'a répondu sur le fait que l'idéologie nazie est véritablement haineuse et dangereuse et qu'il faut la comprendre, etc. Donc tu vois, ils ont dû travailler sur ce genre de choses aussi.
oui, je pense aussi.
Mais donc, il y a ce contexte, et je pense qu'il se servira du bannissement de Kanye West pour dire, vous voyez, on bannit des gens. Enfin bref, on verra ce qui se passe avec les néo-nazis qui sont revenus. Peut-être que dans une semaine, il va dire, bon, bah, ceux-là, on les bannit aussi. Peut-être, j'en sais rien. Mais ce qui est important dans ce contexte, dans le contexte des préférences politiques et des dérives qu'on peut voir sur Twitter, c'est les Twitter Files, qui sont une série de communications internes que Elon Musk a visiblement fait envoyer ou envoyer à un journaliste qui s'appelle Matt Taibbi, et qui détaille, et c'est peut-être ça dont vous avez entendu parler, qui détaille les discussions autour de la modération de l'affaire Hunter Biden, le fils de Joe Biden, pendant les élections de 2020. Il y avait eu une grosse affaire, un gros scandale, avec un article du New York Post qui avait été publié révélant des choses sur les activités de Hunter Biden suite à l'obtention de son ordinateur portable. Le lien vers l'article avait été d'abord supprimé, puis rétabli deux jours plus tard sur Twitter, et Elon Musk a utilisé la chose pour dire que le gouvernement avait, que c'était une brèche du Premier Amendement parce qu'ils avaient reçu des demandes pour faire supprimer certains tweets qui concernaient l'affaire. Et je dois avouer qu'en lisant l'article du New York Post sur le sujet et le thread de Matt Taibbi, je me suis dit, oula, effectivement, il y a des trucs qui sont un petit peu inquiétants. Il y a le gouvernement qui envoie des tweets à faire supprimer sur Twitter, par Twitter, et puis Twitter qui répond, ok, c'est bon, on a géré, on s'en est occupé. Et on n'a pas vu le processus interne. Et je me suis dit, mais attends, c'est vraiment problématique, en fait, cette histoire. Et je remercie, alors on l'a vu un petit peu partout ailleurs, mais je remercie Guillaume qui, sur le Discord de la communauté où on discutait de ce sujet de manière très sérieuse et active, m'a donné des précisions. Et en fait, ce qu'il en ressort, c'est qu'en 2020, l'organisme qui a envoyé... Parce que si le gouvernement envoie des tweets à faire supprimer à Twitter, c'est clairement une suppression de la liberté de parole. Genre, on vous envoie ce tweet, vous le supprimez, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de review, il n'y a pas de machin. Là, c'est un gros problème. Sauf que ce qui s'est passé, ce n'est pas du tout ça, en fait. Et ce n'est pas ce que mettent en avant les gens qui en parlent, du côté de Twitter et de Musk. Ce qui s'est passé, c'est que ce n'était pas le gouvernement qui envoyait des tweets à faire supprimer, c'était la campagne de Joe Biden, donc ce n'est pas le gouvernement, donc ça ne concerne pas le Premier Amendement. Et les tweets en question... C'était des tweets qui présentaient des dick pics de Hunter Biden qui avaient été obtenus par son laptop. Donc, c'était des dick pics qui sont du contenu de nudité publié sans le consentement de la personne, ce qui est contre les conditions d'utilisation de Twitter à la base. Donc ça n'a rien à voir avec le premier amendement, et c'est clairement une affaire qui est, c'est ça qui est vraiment inquiétant, c'est clairement une affaire qui est ressortie et montée en épingle pour embarrasser le gouvernement actuel, et il élude tous les éléments, et c'est une intention politique, je pense, c'est assez clair de Elon Musk, il élude complètement les aspects importants qui sont, bah, c'est pas le gouvernement qui lui a envoyé la demande, et ce genre de demandes sont en concordance avec la politique d'utilisation de Twitter, ils les ont passées en revue, et ils ont décidé de les supprimer parce qu'effectivement, c'était des contenus de nudité qui étaient publiés sans l'accord de la personne. Et en plus de ça, évidemment, n'importe quel organisme peut envoyer des tweets à Twitter, organisme important, et c'est le cas de la Maison-Blanche de Trump, du Parti républicain aussi, à passer en revue parce qu'ils disent « Attendez, là, sur ce tweet, il y a un problème, passez-le nous en revue et ça contrevient à vos conditions d'utilisation. » Donc, c'est vraiment une histoire qui devrait faire pchit, mais j'imagine que c'est un truc qui va tourner dans les cercles des républicains MAGA pour montrer à quel point le gouvernement Biden contrevient à la liberté d'expression et essaye de faire taire des affaires qui les embarrassent. Entre parenthèses, cette affaire est toujours en cours. L'affaire des problèmes de Hunter Biden n'est pas terminée. Il y a une enquête qui est en cours parce qu'il y avait des accusations qui étaient graves sur le fils de Joe Biden et c'est encore en cours. Donc, il n'y a pas encore eu de conclusion sur la nature de ces activités illégales, s'il y en avait. Et tous les articles en question ne parlent pas du tout de ça. Ils parlent des discussions sur la manière dont il faudrait modérer ce sujet, parce qu'à ce moment-là, la question se posait comme évidemment des gros problèmes. Vous imaginez bien qu'en pleine élection en 2020, eh ben, ce genre d'affaires et ce genre de scandale, c'est vrai, c'est pas vrai, on ne sait pas, est-ce qu'on va l'autoriser ou pas. Ça fait partie des discussions de modération et c'est une discussion qui est très difficile. Au final, Jack Dorsey a tranché, il a dit bah, « si, on laisse publier ». Bref, voilà pour ça. Ouais. Et puis à côté de ça, il y a toute une histoire avec la pub et il a fait la paix avec Apple, mais il reste beaucoup de problèmes avec la pub et ils n'arrivent pas chez Twitter à atteindre leurs objectifs de pub. Ils sont à 20%, enfin 80% en dessous de leurs objectifs. Et ils sont maintenant en train d'offrir des centaines de milliers de dollars, des millions de dollars en pub gratuite, entre guillemets, pour doubler les achats de certains annonceurs. Apple achète toujours beaucoup, mais ce n'est pas l'essentiel. Donc, il y a de gros, gros soucis à ce niveau-là. Et c'est ça le vrai problème, comme on en parle depuis toujours, pour la survie de Twitter. Encore une fois, c'est très long tout ce que j'ai dit, mais il se passe beaucoup de choses sur Twitter. Je vous laisse maintenant la parole si vous avez des choses à ajouter.
Bah, c'est un peu comme d'hab, quoi. C'est-à-dire que les mecs, ils détricotent un peu une vérité, ils en rajoutent et pour se tirer un peu la couverture, quoi. Après, sur le fond, moi, voilà, je trouve que Twitter en fait, a fait son boulot finalement, puisque c'était des photos un peu de nudité, de machin. Donc voilà, après c'est juste un truc monté en épingle. T'as raison, quand tu dis ça aurait dû faire pchit, mais ils alimentent le feu, quoi.
Pour préciser, la modération de l'article du New York Post à la base était très controversée, parce que l'article était un article qui aurait dû être publié a priori, qui posait des questions qui étaient légitimes, mais sur le moment, on ne savait pas d'où venait ce laptop. C'était quand même bizarre, un type qui avait un laptop du fils du candidat à la présidence, on ne savait pas d'où ça venait. Et donc, le truc a été dépublié pendant 2 jours. Et puis, Jack Dorsey a ensuite pris la décision de le republier. Donc, la question de la modération était clairement difficile. C'était ça le problème à ce moment-là. Aujourd'hui, ce dont ils se servent pour dire... Il y a le gouvernement qui intervient dans la liberté de parole, c'est une contravention au premier amendement. Là, on parle des dick pics qui ont été demandés, dont la suppression a été demandée par la campagne de Biden, donc pas par le gouvernement. Et c'est ça qui est beaucoup mis en avant par Musk et ses amis pour dire, voilà, premier amendement, si ça, c'est pas une contravention au premier amendement, je ne sais pas ce que c'est. Bah non, c'est absolument pas une contravention au premier amendement.
Ouais.
Mais là, il est dans la démonstration que... en fait, le problème, c'est qu'il a débarqué comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Il a voulu tout bouger, imposer sa patte, etc., expliquer à quel point Twitter, c'était Walkland et que c'était pas possible d'avoir un réseau social avec autant d'opinions, d'opinions de gauche pour lui. Que le réseau se devait d'être neutre, que c'est un outil qui est censé être utilisé par tout le monde, etc. Donc, il se faisait... chevalier blanc de la liberté d'expression, etc. Et là, en fait, il est dans la démonstration que ce qu'il fait, il le fait dans le sens du bien-être de l'humanité. Et donc, fatalement, tout ce qu'il va pouvoir essayer de monter en épingle pour montrer à quel point il a raison et son rachat de Twitter était une bonne chose, il va forcément faire feu de tout bois avec ça. Donc, il est dans la démonstration permanente. Et typiquement, la réintroduction des comptes nazis, s'il doit les ban, il dit « Mais regardez, moi, je leur ai donné une chance. Ils n'ont pas su la saisir parce qu'ils ont enfreint la loi, etc. Regardez à quel point je peux aussi être neutre vis-à-vis de ce type de message et du coup faire tomber la sentence quand elle doit l'être. » Mais en fait, il considérait qu'il y avait déjà un a priori, c'est-à-dire de la part de Twitter, avéré ou pas, qu'en gros, à partir du moment où on postait quelque chose qui n'était pas de l'idéologie woke, il pouvait se faire ban plus facilement qu'un autre tweet, en fait. Donc, c'est ça sa démonstration. Et aujourd'hui, il est même capable de lancer Twitter Blue officiel à $8 et deux jours plus tard, dire « Regardez, je vous ai écouté, liberté d'expression, c'est la voix du peuple qui a raison, la voix de la majorité, et bien du coup, je le retire parce que ça ne marchait pas et on reviendra avec une autre copie revérifiée. » En fait, il est tout le temps dans cette démonstration-là et il est chiant pour ça. Hein. C'est-à-dire qu'il veut tout le temps avoir le beau rôle dans l'histoire et quand il se trompe, il explique à quel point, regardez à quel point je suis vachement bon parce que je me suis trompé, mais je vous ai entendu et j'ai fait la modification. Enfin, et j'ai modifié les choses.
Ce qui me gêne dans
la... Il est toujours du bon côté de la barrière, en fait.
Ouais, c'est facile quand c'est toi qui poses la barrière. C'est la barrière,
mais du coup, il réécrit beaucoup de choses. Il réécrit l'histoire, en fait, sur plein de choses. Et typiquement, l'histoire de Biden, il a réécrit une partie de l'histoire. C'est-à-dire qu'il veut absolument montrer que... Mais en fait, c'est lui le garant de la liberté d'expression, plus que même ce gouvernement de gauche qu'il ne considère pas comme étant acquis à sa propre cause, tu vois, en fait. Donc, on est vraiment là, en fait.
Ouais. Moi, ce qui m'inquiète dans tout ça, c'est qu'en bannissant le compte de Kanye West, et peut-être qu'il va bannir le compte de literal nazis, genre de vrais néo-nazis, tu vas dire, regardez, voilà, ça, c'est la droite. Mais c'est comme l'histoire de quand tu mets quelqu'un plus à droite ou plus à gauche que toi pour donner l'illusion que toi, tu es plus modéré. Et j'ai l'impression
mais
que
c'est... Mais c'est sa démonstration.
C'est sa
démonstration. En fait, sa démonstration même. Rappelez-vous, il a fait cette démo. Il faudrait retrouver son tweet, mais il tweet tellement que ça va être impossible. Mais il avait fait un schéma en expliquant, en mettant la gauche, la droite, et lui, où il se situait. Il disait, moi, j'étais au centre. Et comme la gauche a tiré trop vers l'extrême gauche, eh bien, je me retrouve, si on étire cette ligne... Ben moi qui étais au centre, je me retrouve à droite.
Oui, ce qui n'a pas de sens. Parce que c'est...
Non, mais ça n'a aucun sens, mais c'est sa démonstration à lui. Et aujourd'hui, en fait, c'est exactement ce qu'il fait. C'est exactement ce qu'il fait à nouveau.
Bon.
Oui, il est fatigant. Honnêtement, il est fatigant parce qu'il n'y a pas une journée où se vante pas des chiffres incroyables que Twitter atteint depuis qu'il a racheté, que le réseau social va tellement mieux, etc. Mais c'est un gars qui n'est pas à une contradiction près. Il vire tout le monde et il est capable de rappeler des gens derrière en disant finalement, peut-être que j'étais un peu vite. Mais en fait, il est né avant la honte. Parce qu'il ne faut pas avoir honte quand même pour faire ça.
Il est né avant la honte. C'est pas mal.
Ouais. Il est capable de dire un truc et de se désavouer deux semaines après en expliquant à quel point son move était intelligent, tu vois. Bah, t'as honte de rien, gars. Mais voilà, bon, c'est comme ça. C'est Elon Musk, en fait. Il est comme ça et il fallait s'attendre à ce que. Ben, c'est son nouveau terrain de jeu, là. Parce que je pense qu'il doit s'ennuyer avec Tesla, avec SpaceX, etc. Mais ça semble à peu près logique. Il lui manquait un média, il a pris celui-ci. Il est en train d'en faire ce qu'il a envie d'en faire. C'est fatigant. Et tu vois, il y a un moment où je m'étais moi-même posé la question en me disant, mais est-ce que vraiment je vais rester sur ce réseau? Parce que j'approuve pas du tout la direction que c'est en train de prendre. Et in fine, tu te rends compte que quand la réalité le rattrape et la loi le rattrape, monsieur n'est pas au-dessus des lois. Avec ce qui s'est passé quand l'Europe lui dit t'as intérêt à arrêter sinon ça va être vite réglé.
Enfin, ça on va voir.
Ou quand les annonceurs ont commencé à dire oula, moi je suis pas sûr de vouloir associer mon image de marque à un réseau qui laisse passer des messages qui sont contraires à la loi, et ce qui semble à peu près logique. Quand il y a eu l'explication avec Tim Cook, etc. Tu te sens que finalement il y a le Elon Musk sur Twitter qui tweet plus vite que son clavier ne tape, tu vois, et qui peut te balancer des conneries énormes. Et il y a la réalité où tu sens qu'au fond, il se dit, j'ai quand même dépensé un peu d'argent, je vais peut-être pas faire n'importe quoi avec. Et les deux. C'est-à-dire qu'il entretient l'image du geek troll sur Twitter Et en même temps, je pense que dans les coulisses, tout se passe pas exactement comme ils nous le montrent.
Sans doute. Sans doute. Je suis sûr que c'est un petit peu différent, mais il n'empêche, la direction que prend le réseau est un peu... Le truc, c'est que pour nous, au quotidien, ça ne change pas grand-chose. Mon utilisation de Twitter, elle n'a pas changé. Mais de la même manière que... je donne un exemple volontairement extrême pour schématiser. Si demain, et je ne vais pas prendre l'exemple des xénophobes, je vais aller dans l'autre sens, si demain, je ne sais pas, le nouveau parti communiste de France gagne les élections et que la propriété privée est abolie et que tu vois, on passe dans un régime communiste, bon, pour ça, notre quotidien changera certainement. C'est peut-être un exemple un peu trop extrême, mais je ne sais pas. Si on va dire, tous ceux qui n'ont pas la nationalité française, je suis désolé, je suis obligé de revenir à la droite, tous les gens qui n'ont pas la nationalité française sortent du pays. Bon, bah, moi, immédiatement, comme ça, de manière impactante, bon, déjà, je suis pas en France, mais si j'étais en France, ça ne changerait pas mon quotidien, si ce n'est que, bien sûr, l'économie changerait, mais tout ça ne m'impacterait pas de manière drastique immédiatement. Et bah, sur Twitter, c'est un petit peu la même chose. Je suis inquiet de voir que les néo-nazis sont littéralement revenus sur la plateforme. Mais pour mon quotidien, moi, j'utilise Twitter comme je l'utilisais il y a un mois, tu vois, ou il y a deux mois. Ça ne change pas vraiment mon utilisation. Ça ne m'empêche pas de m'inquiéter de la direction que prend le réseau, malgré mes exemples très mal construits. Bref.
Compris, Patrick.
Alors, écoutez, on va s'arrêter là pour Twitter. Il y aurait peut-être plus de choses à dire, mais on reviendra la semaine prochaine. Et puis, on a passé plus de temps sur GPT. Je pense que c'était plus intéressant.
Ouais.
écoutez, on va du coup passer aux news et aux rumeurs rapides. Mais avant ça, je vais quand même vous rappeler que... regarde, je vais aller sur GPT-3 et je vais poser la question. Quel est le meilleur moyen de soutenir le podcast, le RDV Tech. Alors, je suis désolé, mais je ne suis pas en mesure de vous le dire. Heureusement, je ne suis pas informé des détails spécifiques concernant les podcasts ou d'autres projets créatifs. Pour soutenir un podcast, vous pouvez essayer les options suivantes. Écoutez régulièrement le podcast et partagez-le avec vos amis. Si le podcast propose des dons ou des contributions financières, vous pouvez le faire soutenir. Vous pouvez soutenir vos créateurs préférés. Laissez des commentaires et des critiques sur les plateformes de diffusion de podcasts comme iTunes ou Spotify. Suivez les créateurs du podcast sur les réseaux sociaux et engagez-vous avec eux en commentant, en partageant. Comme quoi, il n'a pas complètement tort.
C'est parfait, non ?
Mais oui. Donc, si vous voulez soutenir l'émission, écoutez, partagez avec vos amis. Vous pouvez laisser des commentaires ou des critiques. Ou alors, vous pouvez soutenir sur Patreon, patreon.com/rdvtech, qu'on puisse continuer à faire cette émission incroyable, merveilleuse, que j'espère vous appréciez. Patreon.com/rdvtech, c'est une somme modique et ça vous donne des bonus plutôt cool. Allez voir sur patreon.com/rdvtech. Je l'ai dit 3 fois en 30 secondes, je pense que ça devrait suffire.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On continue avec le reste de l'émission. Et du coup, j'ai mon petit jingle, le reste de l'actualité. La Chine a utilisé vous savez qu'il y a des manifestations en Chine, hein, en ce moment. Ouais. Eh bien, certains ont eu la bonne idée d'utiliser des masques ou de mettre des trucs sur leur visage pour se camoufler, pour pas avoir de reconnaissance faciale. Eh bien, pour la première fois dans une grande ville, la Chine a utilisé la localisation par téléphone. Donc, par téléphone, il y a des gens qui étaient allés dans les manifestations, qui sont rentrés chez eux, qui ont enlevé leur masque. Ils se sont dit « Ok, ça va, on ne va pas me reconnaître ». Eh bien, ils ont reçu les coups de fil des policiers le lendemain, qui sont venus leur rendre visite. Donc, voilà, quand on vous dit parfois les données, ça peut être
problématique. Je crois me souvenir qu'il y a eu un truc comme ça en France aussi. Il y a un moment, il y avait des manifs, je ne sais plus quand, je ne sais plus où. Et ils avaient fait borner les téléphones des gens qui étaient dans la manif. Et après, ils avaient été faire toc-toc chez certaines personnes. Quoi.
T'es sûr de ça ?
Ah, et je me souviens d'un truc comme ça, ouais. Mais faut vérifier.
D'accord, faudrait vérifier.
Mais
attends, mais c'est bon, on n'a pas besoin. Est-ce
je me souviens
que
d'avoir écrit un
le gouvernement français... Pardon, vas-y.
Vas-y, demande-lui, on ne sait jamais.
A déjà utilisé... les données de géolocalisation, pas besoin de préparer une émission, de géolocalisation par téléphone pour identifier des manifestants. Je suis désolé, mais je ne suis pas en mesure de vous dire. Ok, bon,
ouais.
Il prend...
Et je crois me souvenir, c'était par rapport à des gens qui avaient cassé des trucs et machin, peut-être. Et ils voulaient, c'était une enquête de police, tu vois, d'accord. Ils voulaient retrouver, mais du coup, ils avaient quand même fait le truc avec, voilà, ça mappait tous les gens qui étaient dans la manif, quoi. Donc, voilà. Mais c'est avec des gros si, il me semble, c'est un vieux souvenir.
D'accord, oui. Bon, mais laissons les si de côté pour aujourd'hui. Parce que, par exemple, la Chine a également demandé à des sociétés comme Tencent ou ByteDance de créer des équipes de censure focalisées sur le contenu des manifestants et de gérer les VPN, etc., etc. Enfin, bref. Autre sujet, on revient à Elon Musk, mais là, pour le coup, bah, on ne va pas lui taper dessus, ou pas trop, c'est la nouvelle présentation de Neuralink. Vous savez, c'est son autre start-up qui vise à créer un outil, un petit device qu'on va implémenter dans le cerveau avec des implants qui font un micron de cheveux humains. Et qui va permettre de contrôler ensuite, avec cet implant, d'envoyer les données aux ordinateurs, les infos aux ordinateurs, et donc de contrôler plein de choses avec l'ordinateur. Cette dernière démonstration est impressionnante. Elle montre un singe qui peut contrôler un curseur, et il dirige le curseur vers la lettre qui a été allumée par les chercheurs, et il peut le diriger hyper vite, donc sans bouger. C'est quasiment de la... télépathie, donc il déplace le curseur comme on le ferait avec une souris, et donc il lui faisait écrire des phrases. Et il disait qu'il voulait créer des outils pour non seulement, bien sûr, contrôler des interfaces informatiques, mais aussi qu'ils avaient pour ambition de faire de redonner la vue à des personnes qui n'ont pas la vue. Ils ont détaillé la manière dont ça pourrait fonctionner. Alors, c'est très, très ambitieux, hein, mais ils pensent pouvoir y arriver dans quelques années. Pour contrôler, par exemple, des membres qui sont paralysés grâce à ce type d'interface. Et ils espèrent commencer les tests chez les humains en 2024. Alors, Elon Musk et les dates, on sait ce que ça peut donner. Mais déjà, la démonstration qui était en place, je suis sûr qu'il y a plein d'autres startups qui font à peu près aussi bien. Mais quand Musk le présente, on y fait peut-être plus attention. Mais il faut avouer que c'était quand même assez impressionnant. Le contrôle du chimpanzé, je crois que c'était un chimpanzé, de l'interface par la pensée était vraiment convaincante, quoi. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais c'était...
Si, ouais, c'est ouf. C'est ouf, il veut bientôt. En plus, ça reste toujours des trucs d'Elon Musk et tout, là, avec son. Entre ça, OpenAI et tout, tu vois où le mec va en venir, quoi. On va avoir un ordinateur dans le cerveau bientôt.
C'est ça.
C'est un gros fan de Cyberpunk, et du coup, on peut très bien imaginer vers quoi ils vont nous amener. Ouais. Mais oui, c'est extrêmement impressionnant, et j'en avais parlé justement avec des gens qui sont dans le domaine médical, et qui disaient, en fait, c'est incroyable comme. La tech est en train d'accélérer même l'autorisation de certains protocoles, etc. Parce qu'en fait, il y a plein de trucs, typiquement ce genre de choses auraient mis beaucoup plus de temps à arriver, j'allais dire, dans le monde normal des gens. Mais Musk fait bouger, fait énormément de lobbying sur ça, enfin son équipe hein, chez Neuralink fait bouger énormément les choses et ils obtiennent des autorisations que d'autres auraient peut-être pas réussi à avoir en si peu de temps. Donc c'est ça qui est assez assez impressionnant. Et d'ici 6 mois, enfin je sais pas si vous vous rendez compte, on est en 2022, pour obtenir le droit par exemple d'expérimentation de certains médicaments, il faut parfois 7, 8, 9, 10 ans en fait. Donc là, on est sur un dispositif qui est quand même assez invasif, qui nécessite une opération du cerveau, etc. Même si ils vous annoncent que c'est hyper simple, hein, c'est des espèces de trucs fins comme des cheveux qui vont se mettre dans votre cerveau. Enfin, on vous ouvre quand même le crâne à un moment. donc,
oui, moi, le je fonctionnement, veux bien comme ça, mais il faut en fait... Voilà. Il y a là, à ce stade, ils mettent quelques, on va dire moins d'une dizaine d'implants. Ils veulent à terme en mettre un millier, mais chacun, c'est un implant hyper fin qui va aller dans une zone de neurones, voire carrément enfin, c'est très, très, très localisé. Et il faut en mettre, oui, c'est à sûr, l'unité c'est qu'on les met. Ils ont développé un robot pour ça, mais voilà. C'est à l'unité qu'il faut les mettre pile aux bons endroits. Donc,
vous savez ce qui m'embête, oui, Monica, c'est que... Ça va être encore un truc d'augmentation qui va vendre et machin, et tu auras tout Internet dans ton cerveau et machin, alors que quelque part, ça serait un outil super intéressant pour des gens, par exemple, qui ont des problèmes tu vois, physiques, quoi, pour marcher ou pour bouger un
bras. Ah ben, c'est de ça qui parle. Hein.
Ouais, c'est de ça qui parle.
À en fait, c'est vendu sous ce couvert-là, mais on sait très bien que quelques gens un peu fortunés vont vouloir s'en mettre un pour... je ne sais quoi, être un meilleur acteur, être un meilleur chanteur, être un meilleur ce qu'on veut. Quoi.
Pour avoir tu vois, je parlais qu'un GPT chat direct dans le cerveau. Sans avoir
Je vais vous donner un exemple un peu simple. Hein. J'ai un copain qui est diabétique et qui utilise un dispositif médical qu'il a sur le bras et qui mesure avec son smartphone son taux de diabète et machin, et qui peut, je crois, peut-être même injecter un peu de trucs. Enfin bref, un truc, tu vois, qui est pour les malades, quoi. Qui doit changer tous les X semaines, etc. Et ce truc-là, avec les pénuries, tu vois, les problèmes qu'on connaît tous, là, de logistique et compagnie, c'est un peu galère à trouver, c'est pas top, quoi. Puis c'est un truc médical, donc c'est remboursé par la Sécu et compagnie. Et en fait, j'ai râlé là-dessus, parce qu'il y a des boîtes maintenant qui se développent pour commercialiser le même dispositif, hein, c'est la même chose, donc quelque part ça prend les mêmes composants, les mêmes trucs, sauf qu'en fait ils vendent ça sur un côté un peu hype, genre pour les sportifs ou pour les gens qui
veulent
se connecter, tu vois, un peu comme ta montre connectée, etc. Et en fait ils gueulaient un peu contre là-dessus parce que déjà ça vole un peu quelque part les dispositifs pour des gens qui en auraient vraiment besoin et qui sont vraiment diabétiques. Et voilà, quoi. Et c'est encore une utilisation. Enfin, ça commercialise en fait un truc qui à la base est une bonne idée pour des gens qui en ont vraiment besoin et qui est donné à des gens qui n'en ont pas besoin. C'est juste que c'est des gens qui ont les moyens de se le payer et c'est d'utiliser ça. Pour rien en faire en fait.
Bah, tu sais que moi j'ai vu un athlète de haut niveau là, dans la salle de sport où je vais, qui justement avait ça. Je lui dis, vous êtes diabétique? Et il me dit, non, pas du tout. Ça me permet de mesurer mon taux de ma glycémie et tout ça pour mon régime alimentaire, tout ça. Je dis, ah bon, mais on a le droit de faire ça? Il me fait, oui, il y a des boîtes qui vendent. Alors, il dit, il faut le payer parce que c'est pas remboursé et tout ça. Mais il dit, quand on a les moyens, on peut se payer le truc. Et moi, ça me permet, comme là, je prépare une compétition, j'ai besoin de savoir où on est ma glycémie pour adapter mes repas et tout ça. Je me dis, waouh, ça y est, on y est.
Ouais, on y est, c'est super pratique, mais si tu veux, quand ça...
Ça y est, on y est, je veux dire, on a détourné l'usage médical de ce truc-là pour en faire autre chose, quoi.
Ouais.
On est sur l'humain augmenté, c'est quand je dis ça y est, on y est, c'est... On n'est pas c'est très, ça. Très loin, quoi, en fait.
Bah donc, Neuralink, au début, pour contrôler les membres chez des paralysés, et puis ensuite, pour pouvoir t'injecter du porn direct dans le cerveau sans avoir à regarder un écran, quoi.
Non.
Ça remplacera le Viagra.
Non, mais par exemple, t'imagines un sur un bouton. Ouais, mais imaginez un discours politique, un débat politique. Vous avez deux personnes l'une face à l'autre. L'une a la possibilité d'interroger le chat GPT et pas l'autre, directement dans son cerveau. Imaginez les arguments qu'elle renvoie. Là, on n'aurait pas dans vos campagnes, machin et tout ça, tu vois. On aurait des vrais débats, mais
générés
par autre chose. Pose d'autres soucis, hein, mais voilà. Ouais, avec des chiffres vérifiés peut-être.
C'est peut-être, oui, et c'est peut-être, j'allais dire, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais en même temps, le chat GPT, bon.
Et chat GPT, a priori, pour faire du fact-checking sur les débats, c'est pas mal.
Ouais, mais j'espère que les personnalités politiques sont bien préparées, justement, peut-être moi, je pense qu'elles sont bien préparées pour leur travail, qui n'est pas un travail facile, mais surtout bien préparées pour les débats aussi. Tu vois, on est pile dans le genre de cas où, là, ouais, tu ne vas pas encore à ce stade laisser ça au hasard de ChatGPT.
Écris ton discours d'investiture à la présidence de la République française via le ChatGPT. Demande-lui de te
décrire un petit faire, discours. Je vais lui faire ça. Peut-être qu'on... On fera ça en after show juste après pour les Patriotes.
Voilà, c'est ça.
Le discours d'investiture de Patrick, le podcasteur qui accède à la présidence de la République. Très bien, on fera ça. Patrick 2027. 2027, me dit-on dans la chatroom. Aidé par GPT-3. Et puis GPT, ça donne lieu à absolument aucune plaisanterie. Apple,
personne n'a osé faire la vanne. Hein.
on ne l'a pas entendu, c'est pour ça.
Pas Jérôme.
Non.
On a aussi des nouvelles du côté d'Apple qui, semble-t-il, confirmerait, d'après les sources de notamment Ming-Chi Kuo, pourrait produire en masse son casque de réalité virtuelle, réalité augmentée, en 2023, deuxième moitié 2023. Sachant que production en masse, ce n'est pas énorme parce que ça va être un truc vraiment de développement et il compte 500 000 unités, ce qui n'est pas beaucoup pour une société comme Apple. Mais ils continuent à travailler sur leur OS, notamment qui s'appellerait plus Reality OS, mais XR OS comme Extended Reality. Donc, on est vraiment dans la confirmation que ça va finir par arriver. Et puis, à côté de ça, il y a un petit mini-scandale. Apple aurait demandé à Coinbase, qui est un outil d'achat et de vente de crypto-monnaie et de NFT, de payer la commission sur, alors attention, sur les gaz fees. C'est quoi les gaz fees? C'est les frais qu'on va payer au réseau pour valider une transaction. Et donc, Coinbase ne touche rien de ces frais-là. C'est juste le fonctionnement du truc qui fait qu'on doit payer au réseau, à quelqu'un sur le réseau, les frais de validation de la transaction. Donc, Coinbase a dit, mais vous déconnez, là, faut pas pousser. Alors, je ne sais pas jusqu'où ça va aller, cette histoire, mais je pense que, clairement, on est dans une application de cette commission de 30% qui est, pour le moins, injustifiée. Du moins, c'est ce que je pense. Et puis, on a une petite série de news que je vais vous lire encore plus rapidement pour conclure l'émission. D'abord, la CMA, dont on parle beaucoup, qui est l'autorité anticoncurrentielle en Angleterre, a estimé qu'il n'allait pas intervenir sur le marché des streamings de musique parce qu'une intervention ne changerait rien au problème des gains des artistes, parce que les problèmes ne sont pas liés à des questions de compétition. Et donc, moi, mes yeux se sont immédiatement tournés vers les labels et les studios qui prennent une énorme partie des revenus générés et qui en laissent peu aux artistes. Et ça ne date pas du streaming. TSMC, la société, le fondeur de puces, serait en train d'investir encore plus en Arizona, aux États-Unis, avec des puces qui fabriqueraient du 4 nanomètres en 2024 et en 2026 du 3 nanomètres. Donc, on a une vraie, intention de créer des puces pour, enfin, de créer des usines de fabrication de puces performantes aux États-Unis. On sait qu'il y a des initiatives similaires en Europe. D'ailleurs, l'Europe et les États-Unis vont travailler ensemble pour coordonner certaines choses dans ce domaine. Paramount Plus, le service de streaming, a trouvé une parade au VPN. Si vous avez un compte créé en France avec une carte bleue française, vous pouvez l'utiliser qu'en Europe et pas aux États-Unis. Donc, si vous connectez avec un VPN et que vous voulez vous connecter avec votre compte français, ça n'a pas marché. On sait que beaucoup de gens utilisent les VPN pour regarder des... Voilà. Et ce n'est pas bête comme moyen de bloquer ça. Hein. C'est simplement, tu as un compte français, tu ne peux juste pas te connecter. Alors, quand tu es en voyage, si tu es vraiment aux États-Unis, tu ne peux pas te connecter non plus. Donc, tant pis pour ta gueule. Mais bon, ensuite, je ne sais pas qui veut se connecter.
Ouais, j'ose espérer que quand tu es en voyage, tu as autre chose à faire, quoi.
Ouais, oui et non. Hein. Il y a un truc qui est bien sur Paramount Plus, c'est Players. Est-ce qu'il est en France, Players, sur Paramount Plus? C'est vachement bien cette série.
Je ne sais pas.
Tu l'as vu, Cédric?
Non. Eh ben, non, écoute, même je l'ai dans ma watchlist.
Très, très bien. Airbnb veut plus d'appartements à louer et donc, alors attention, hein, faut suivre. Ils aident des personnes qui veulent louer des appartements à trouver des appartements à louer, mais c'est des appartements qui sont Airbnb friendly. C'est-à-dire que c'est des appartements dont les propriétaires ont dit « Ouais, nous, on veut bien que vous l'utilisiez pour Airbnb. » Et donc, ils trouvent des locataires à ces propriétaires en leur disant bah, « Vous pouvez louer cet appartement et vous pouvez, par exemple, il y a une chambre en plus que vous pouvez utiliser en Airbnb ou quand vous allez en vacances, vous pouvez ensuite le mettre sur Airbnb. » Donc, ça leur crée du business pour eux. Je trouve que c'est un peu, enfin, pas vicieux, mais enfin, c'est quand même, ça va loin, quoi. Airbnb aide les gens à trouver des appartements à louer pour pouvoir ensuite les mettre sur Airbnb. C'est quand même fort.
Les gens le faisaient déjà, en fait, mais ils ne devaient pas prendre leur com', quoi. Mais voilà, ça se faisait déjà. Le problème, c'est que ça se faisait...
L'agence immobilière 2.0, quoi.
Ça se faisait dans le dos des proprios, en fait.
Oui.
C'est ça.
D'accord. Bah écoute, maintenant, c'est Airbnb qui le fait directement aux États-Unis. Vous savez qu'il y a un bonus de réparation. Si vous voulez faire réparer un appareil, le gouvernement a mis en place un bonus qui vous permet de le faire réparer plus facilement, enfin de vous faire rembourser une partie du coût de réparation. Vous saviez ça ou pas ?
J'ai entendu vaguement parler de ça, mais bon.
Ouais, j'en ai entendu parler,
Moi, je les répare moi-même, donc du coup, je ne sais pas si le bonus, ils vont me le donner.
Je ne suis pas sûr.
Je réclame.
Je vais vous avouer que c'est pas le truc le plus motivant qui soit. Alors bien sûr, il faut que l'appareil ne soit plus dans le cadre d'une réparation par le constructeur, etc. Et les sommes, bon, c'est pas fou, hein, c'est 20 euros, 30 euros, ce genre de choses. Même pas, genre ça, c'est de 10 à 45 euros pour le produit à réparer. Disons que ça peut motiver un petit peu, mais c'est pas ça qui va vous annuler le frais de la réparation. Moi, je me demande si quand on achète un autre truc, c'est pas juste pour s'éviter l'emmerde de devoir le faire réparer, mais en fonction de l'état de la chose, ça peut être motivant. Surtout que, oui, c'est mieux de réparer que de racheter un nouveau truc. Hein. Je pense que ça, c'est assez clair.
Après, c'est un réflexe à avoir. Moi, je l'avais pas avant. Tu vois, j'étais plutôt à dire ça marche plus, je jette, je rachète. Maintenant, pour des raisons effectivement écologiques et puis juste parce que c'est marrant, je me pose et puis je regarde sur YouTube s'il n'y a pas des gens qui l'ont déjà réparé, qui ont le même problème. Et en fait, c'est jamais très compliqué. Je ne vais pas jusqu'au niveau de refaire des soudures sur des composants, des machins. Mais pour des trucs un peu simples, de problèmes de machine à laver, trucs, il y a toujours moyen de réparer parce que tu fais venir un mec chez toi, il va te facturer une somme folle juste pour enlever un petit bout de verre cassé dans ta machine à laver, enfin, tu vois, dans ton lave-vaisselle. Dommage, quoi, alors que t'aurais juste lu la doc, t'aurais regardé une vidéo YouTube, c'était réglé en 2-2, bon.
Tu vois. Ouais, ou tu demandes à ChatGPT comment on répare le truc.
Non, mais tu vois, y a aussi une raison financière, hein, tu vois, le Joy-Con Drift, par exemple, sur les Switch, c'est hyper facile à réparer, et ça te coûte 10 balles pour 2 Joy-Con, quoi, tu vois, donc...
Réparer vos Joy-Con, c'est la leçon de ce sujet.
Ouais, c'est hyper facile.
Et puis, quoi d'autre ? Allez, dernière histoire. Goldman Sachs va investir dans quoi ? Dans la crypto. Va mettre des dizaines de millions de dollars dans la crypto, dans l'investissement ou dans l'achat, tout simplement. Parce que la suite de la chute de FTX, notamment, eh ben, les valeurs sont tellement basses qu'ils doivent se dire, bon, allez, on va mettre quelques dizaines de millions de dollars. Au pire, on les perd. Mais si ça remonte un peu, ça va peut-être nous faire une petite plus-value. Et je pense que c'est... On parle souvent des problèmes des domaines des cryptos. Bon, bah là, ça semble indiquer qu'il y a certains, au moins, qui pensent que, oui, c'est un assainissement et puis ça va peut-être remonter à un moment dans certaines activités de la crypto. Donc, je le mentionne également.
Je vais t'ajouter une news. Vous connaissez Starlink, évidemment.
Bah oui.
Mais est-ce que vous connaissez Starshield ?
Non, moins.
Eh bien, en fait, c'est le pendant militaire de Starlink, qui vient d'être dévoilé. Du coup, le Pentagone est évidemment hyper intéressé. Et en fait, qu'est-ce que ça va faire en plus que d'envoyer du réseau, à votre avis, avec ces satellites qui volent bas ? De l'imagerie.
De l'imagerie ?
Voilà, on rajoute. Et oui, de l'imagerie satellite. Du coup, le
mais il y a des photos dans des appareils photos dans les
non,
satellites.
Mais justement, c'est des nouveaux. Le Starshield étant un nouveau réseau de satellites.
Ah, c'est pas SpaceX, ça n'a rien à voir avec Elon Musk.
Si, c'est SpaceX. Voilà. Et donc, il y a de fortes chances d'ailleurs que les prochains satellites envoyés par Starlink soient aussi équipés de tout ce qu'il faut pour l'imagerie, en fait.
C'est d'accord. Et du coup,
qu'ils vont les renouveler.
Du coup, on aura maintenant Elon Musk pour avoir absolument tout ce qu'on fait partout sur Terre.
Exactement. Et c'est pas du complotisme. Hein. Je t'envoie l'article de CNBC si tu veux le rajouter en lien, mais c'est impressionnant en fait. Voilà.
Très bien. Starshield.
Donc
du
tu
coup...
vois. Et ouais. C'est la version militaire de Starlink. Tu sais, tout à l'heure, on parlait des implants dans la tête et tout, pour les gens qui ont des pertes de mobilité. Ben, vous inquiétez pas, vous allez avoir le penchant militaire qui s'appellera
Neurashield
Arms. Je ne sais pas, ou Neurashield, voilà.
Neurasoldier.
Ça, c'est...
Neurasoldier.
Neurasoldier. Notons quand même que c'est pas, encore une fois, hein, Elon Musk n'est pas le seul sur le créneau avec Neuralink. Il y a plusieurs sociétés, beaucoup de sociétés qui font ce genre de choses, et si c'est pas lui qui le fait, il y en a d'autres qui le font aussi. Donc c'est juste.
Oui, bien sûr.
Lui
communique beaucoup sur toutes ses activités et tout ça. C'est surtout ça en fait.
Ouais. Donc voilà pour notre émission, le rendez-vous tech se conclut. Je sais même plus où j'étais. Non, c'est là. Le rendez-vous tech se conclut et je remercie très chaleureusement Cédric et Corben d'avoir été avec moi pour cet épisode. En particulier la partie ChatGPT qui était particulièrement intéressante. On va peut-être, comme je le disais, continuer un tout petit peu sur la partie after show avec les patriotes ou pour les patriotes.
Le discours,
exactement, le discours d'investiture et peut-être quelques autres petits trucs. Mais avant ça, un grand merci à tous les deux. Est-ce que vous pouvez me dire où on peut vous retrouver sur Internet quand vous n'êtes pas dans le rendez-vous tech ? Commençons par Cédric et ses étudiants.
Ouais, bah moi en ce moment, pas dans beaucoup d'endroits parce que je suis sur un milliard de projets à la fois, mais déjà sur Twitter, le réseau d'Elon Musk, donc Cédric Deluca avec le chiffre 2, L-U-C-A, voilà.
Cédric Deluca, le lien sera dans les notes de l'émission, on mettra aussi @Corben dans les notes de l'émission, mais où es-tu à part ça ? Tu nous disais que tu es sur TikTok également, Corben.
Toujours sur corben.info sur le blog, et oui, sur TikTok, tu cherches Corben Info, tu vas me trouver sur TikTok, si t'aimes bien voir ma tête tous les jours, il y a une vidéo par jour, et puis sur Twitch, là, c'est la dernière de l'année, là, c'est tout à l'heure, là, à 14h, voilà. Après, c'est vacances, fin d'année, on se retrouvera en janvier, quoi.
Très bien. Écoute, peut-être voilà. Qu'on te fera un raid quand on aura fini l'émission.
Bah ouais.
Pour ma part, c'est NotPatrick sur tous les réseaux sociaux, sur le réseau d'Elon Musk et sur les autres. Vous pouvez retrouver d'ailleurs tout ce que je fais dans les notes de l'émission. Il y a le Twitch, dont on a parlé plusieurs fois dans cet épisode. Il y a les VOD, donc les vidéos en replay sur YouTube également, sur NotPatrick Podcasts. Le lien est dans les notes aussi. Et puis bien sûr, le Patreon, patreon.com/rdvtech pour soutenir l'émission. Si vous souhaitez le faire, bah, allez voir ce qu'on offre comme petit bonus sympathique. Et on n'oublie pas le Discord où on s'amuse bien tous ensemble, on discute de sujets sérieux ou non sérieux. Et c'est toujours dans une bonne ambiance et c'est garanti sans aucun nazi, d'aucune forme qu'il soit néo ou classique. Il n'y en a pas sur le Discord de Patrick, donc ça c'est plutôt une bonne chose. On se quitte là et on se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous et à toutes. Bye bye.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics, all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.